Alors, je suis très heureux de me retrouver accompagné de mon épouse au milieu de vous. Comme l'a dit notre frère, je suis passé en 2006 et de nouveau en 2008 pour Québec l'Espoir. L'église de Paris-Nation a terminé son culte depuis plusieurs heures et elle m'a chargé de vous transmettre toutes ses salutations. J'ai accueilli hier soir, enfin nous avons, pardon, avec mon épouse accueilli hier soir, à l'aéroport de Québec, 6 Français de notre église qui sont venus exprès pour travailler avec Aujourd'hui l'Espoir pour cette belle campagne qui va avoir lieu bientôt. Et nous avons, en été 2007, une cinquantaine de jeunes de notre église sont descendus sur la ville de Toulouse où les Québécois étaient venus en Europe. Donc Toulouse, c'est une des grandes villes françaises. C'est la ville des avions, les Airbus, une ville de technologie de pointe. Et alors là, il y a une belle église avec notre frère Michel Viguier, qui a travaillé à Beauport pendant 14 ans. Et il a fait venir Aujourd'hui l'Espoir. Alors nous sommes descendus de Paris, à peu près 700 kilomètres. On a une chorale de gospel, on a un groupe de hip-hop, on a un groupe de rappeurs. C'est des jeunes qui font de l'évangélisation. On leur a dit, le hip-hop et le rap, c'est pour l'évangile, c'est pour le Seigneur. C'est pas pour vous amuser. Alors ils ont dit, ok, on va marcher comme ça. Et l'évangile a été répandu, ils ont attiré des centaines et des centaines de personnes pendant toute une semaine. Et résultat de cette campagne, six de nos jeunes ont décidé de passer par les eaux du baptême, en rentrant de cette campagne. Et 13 jeunes ont demandé à devenir membres de notre Église. On n'arrivait pas à leur faire comprendre l'intérêt d'être membre de l'Église. Alors on les a envoyés faire de l'évangélisation. Ils sont revenus, ils avaient tout compris. C'est beau, hein? Alors maintenant, si vous vous posez quelques questions, eh ben partez tous sur Québec, là, du 31 au 10 août, 31 juillet à 10 août. Puis il y a plein de choses que vous allez comprendre. Parce qu'avec le Seigneur, ça marche comme ça. Les pasteurs enseignent, on ne comprend pas. On se met au service du Seigneur et on comprend. Et quand on comprend quelque chose qui vient du Seigneur, alors ça nous reste dans le corps, hein. Ça nous reste dans l'âme et dans l'esprit. Et puis alors on marche pour le Sauveur parce qu'on a compris quelque chose. Bon, maintenant il faut que je cherche l'horloge. Elle est là, ok. On va parler de la foi ce matin. Il y a 2 ans, on a parlé de l'amour en partant de l'Épître aux Romains, chapitre 8, pour exposer cet amour de Dieu, amour inconditionnel, cette sécurité dans laquelle nous nous trouvons placés en Jésus-Christ. Et ce matin, j'aimerais apporter une réflexion sur la foi vivante, la foi qui nous engage. Vous êtes tous engagés, j'en suis convaincu, mais on a toujours besoin de comprendre, de s'entendre rappeler certains point précis des Saintes Écritures. Je vais donc utiliser 2 textes, un premier un petit peu long, 37 versets, dans l'Ancien Testament, dans le livre, deuxième livre des Rois, chapitre 4, c'est l'exposé d'un couple et de la foi d'un couple. Ce couple de la Tsunamite, au temps d'Élisée, on va regarder comment Dieu a conduit ce couple dans l'exercice d'une foi pratique, d'une foi engagée. On va voir l'expression de la foi de ce couple. Ensuite, on va voir la progression de la foi de ce couple dans l'engagement. Ensuite, on va voir l'exaucement de la foi, parce que cette femme portait en elle un drame, une souffrance, que d'ailleurs Élisée n'avait pas perçue. C'est son serviteur qui va lui indiquer la chose. Et puis ensuite, on va voir l'épreuve de la foi après l'exaucement. Et ainsi, nous verrons ensemble comment Dieu purifie notre foi, comment il la développe, comment il la rend mature. Et ainsi, nous serons ensemble heureux d'avancer avec le Seigneur, de comprendre tout à nouveau des choses, et puis d'avoir une perspective pour le futur proche et le futur lointain. Savoir comment marcher avec le Seigneur. Alors, je n'ai pas l'intention de vous apprendre beaucoup de choses. Je sais que vous connaissez beaucoup de choses. On va simplement revoir ensemble des grands principes. Donc, 2 Rois, chapitre 4, des versets 8 au verset 37. Un jour, Élisée passait par Sumène. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sumène, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Tsunamite. » Géasi l'appela, et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi ? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle ?» Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père, vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui ? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne t'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Tsunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Te portes-tu bien ? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien ?» Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'il fut arrivé auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur ? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas ?» Et Élisée dit à Géasi, « Saint-Airain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et elle se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, et ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette tsunamite. » Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit, « Prends ton fils. » Et elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Et puis un dernier verset dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Nous sommes donc en présence d'un couple qui a la foi. Un couple de l'Ancien Testament, on pourrait transposer leur histoire dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire dans le monde des chrétiens, et quelque part trouver pour chacun d'entre nous des parallèles. Oui, un couple qui a la foi et qui, puisqu'il a la foi, a du discernement. Ils aperçoivent un homme. Et tout de suite, cette femme, qui est une femme de distinction, c'est-à-dire une femme de la haute société, cultivée, une femme qui certainement avait les moyens, puisqu'ils ont pu construire, faire des rénovations chez eux, une femme intelligente, une femme raffinée, une femme de société, qui aperçoit cet homme et qui décide d'ouvrir sa maison pour offrir un repas. Ça, c'est l'expression première de la foi. L'aspect pratique de notre foi, rendre service, être attentif aux besoins des autres. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on commence à mettre en quelque sorte le doigt dans l'engrenage, Dieu nous rend encore plus sensibles, oserais-je dire plus intelligents dans le sens pratique des choses. Une fois qu'ils ont donné à manger à cet homme, et d'une manière régulière à chacun de ses passages, l'Esprit de Dieu met dans leur cœur le désir d'aller plus loin, ouvrir leur maison, construire une petite chambre, qu'on a coutume d'appeler chambre haute, installer des meubles, donc dépenser de l'argent pour le serviteur de Dieu, afin qu'il puisse se reposer. Ça, c'est une foi en action. Une foi qui commence par un repas, et qui se prolonge donc par une installation, une modernisation de la maison. Pourquoi ? Parce que cette foi est animée par l'amour. L'amour de servir et d'offrir à l'homme de Dieu toutes sortes de conforts. C'est la foi qui nous habite, vous et moi, qui sommes nés de nouveau. La foi qui exprime sa réalité dans la pratique d'un amour concret. Un amour donc qui coûte en temps, en argent, en investissement, en don de soi. Ce couple, après avoir donc offert l'hospitalité, va installer la maison. Cela nous fait penser à cette citation de l'apôtre Jacques, « La foi sans les œuvres est inutile ou morte. » C'est pour ça que dans les Saintes Écritures, il y a des interpellations de Dieu vis-à-vis de ses enfants. En 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, il dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Il écrit ça à des chrétiens. Nous avons donc besoin, vous et moi, de nous examiner. Nous sommes capables d'agir. Nous savons faire les choses. Nous sommes généreux. Je vois depuis, c'est je crois mon 12e voyage au Québec, à chaque voyage, je vois cette générosité des Québécois. Ce cœur qui s'offre. D'ailleurs, je ne dis plus rien quand je suis chez un Québécois. Parce qu'un jour, j'ai dit à quelqu'un, « Oh, qu'est-ce que c'est beau ce tableau !» J'ai retrouvé dans ma valise. Mais j'ai dit non, mais je dis simplement que c'est beau. Ah ben je te le donne. Je dis écoute, je suis gêné. Ah ben si tu pars pas avec, c'est nous qui allons être gênés. Alors je suis parti en France avec un tableau. Alors maintenant je ne dis plus rien. Vous pouvez m'inviter, je ne dirai plus rien. Parce que j'ai compris comment ça fonctionne chez vous. Alors c'est beau, merci. Mais en même temps, avec la générosité intervient parfois l'habitude liée à notre condition d'être humain. Et il se pourrait qu'on agisse par habitude. On sait faire les choses. On prie, on lit la parole, on vient en réunion, on aime le Seigneur, mais il se pourrait qu'on fasse les choses par habitude. C'est pour ça que dans les Saintes Écritures, il nous est demandé de nous examiner, c'est-à-dire marquer un temps d'arrêt, de réfléchir à nos motivations, au prix que nous payons. J'ai remarqué dans notre église à Paris, les jeunes convertis, quel que soit leur âge, les jeunes convertis, vous pouvez tout leur demander. Ils sont toujours disponibles, ils sont toujours prêts à tout faire. Puis les convertis plus âgés, vous pouvez compter sur eux, mais ils expriment des conditions parfois. La spontanéité de la jeunesse de la foi, quelque part, parfois, que deux fois hein, dans mes propos, parfois, ne s'exprime plus avec autant de légèreté, autant de force. Comme si on se mettait à calculer la dépense. Certes, on vieillit, on a moins d'énergie, on a des charges de famille, etc., etc., mais il n'empêche que ce qui intéresse Dieu, c'est le don de nous-mêmes. C'est pas tellement ce que nous faisons, c'est dans quel état d'esprit nous le faisons. Vous savez, ce qui est embêtant avec Dieu, c'est qu'il ne regarde pas que les apparences. Il regarde ce qui se voit, et puis il regarde au cœur. Il sonde les cœurs et les reins. Il sait exactement dans quel état d'esprit nous le servons. Et là, son regard est incontournable. On peut se mentir à soi-même. On ne peut rien cacher à Dieu. Et comme Dieu nous aime, alors il va aller plus loin. Il va continuer son travail. Ce qui est intéressant dans la symbolique du mobilier que la tsunamite a mis en place dans cette chambre, c'est qu'il y a une symbolique, il y a un lit. Alors le lit, c'est le symbole du repos. Un lit, c'est fait pour se reposer. Alors c'est extraordinaire parce que Dieu veut qu'on le serve dans le repos, pas dans l'agitation, pas dans la crainte, pas dans l'excitation. Il veut qu'on le serve dans le repos. Vous savez que Dieu est actif en se reposant. Oui, Dieu, il sait faire des choses que nous, on a du mal à vivre. Vous savez, Dieu, il est incroyable. Dieu, il se repose, mais il ne sommeille ni ne dort. Dieu, il se repose, mais il crée, dans le sens qu'il sauve des hommes et des femmes. Il est toujours en train de travailler, mais dans le repos. Alors, Dieu veut nous apprendre à travailler dans le repos, c'est-à-dire dans ce repos spirituel, dans cette confiance. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, dans le prophète Ésaïe, si je ne me trompe. Donc ça, c'est l'expression de l'action dans le repos. Là, on a deux secrétaires à l'église de Nation. Alors, il y en a une, elle est tip-top, super organisée. Vous lui donnez quelque chose à faire, vous pouvez aller vous reposer, dans le sens physique du terme, vous pouvez aller dormir, ce sera fait. Simplement, elle est tendue. Alors, un jour, on a organisé un week-end d'église. Alors, je lui dis, où en sommes-nous? Alors, elle me sort tout le planning, hyper bien organisé, mais il y avait peu d'inscriptions. Alors, elle me dit, mais personne s'est inscrit. Alors, je lui dis, mais ça, c'est l'affaire du Seigneur. Alors, elle m'a répondu, oui, c'est l'affaire du Seigneur, mais il n'empêche que personne s'est inscrit. Alors, je lui dis, écoute, c'est bien, tout ce que tu as fait, c'est super. Oui, mais personne s'est inscrit. Mais je lui ai dit, écoute, ça, c'est l'affaire du Seigneur. Ah oui, c'est l'affaire du Seigneur, mais personne s'est inscrit. J'ai dit, est-ce que tu vas comprendre quelque chose, ma sœur? Toi, tu fais ce que tu dois faire. Puis après, tu laisses le Seigneur faire ce qu'il veut faire. t'organises. Et heureusement que t'organises. Puis alors elle pense à tous les aspects d'une situation. Mettez les sœurs au boulot. D'ailleurs, je crois que c'est même pas la peine de vous le dire, les sœurs se mettent naturellement au travail. C'est peut-être les frères qui se mettent moins au travail. Enfin, en France. Vous, ça marche, vous êtes tous au boulot, les frères. Oh, quel pays béni, c'est extraordinaire. Venez un peu par chez nous, là, de l'autre côté de l'océan, ça nous fera du bien. Nous, les sœurs, sont au travail. Puis les frères, faut qu'on les encourage, vous savez. Oh, bon. Le repos, un lit. Une table. C'est le symbole de la communion personnelle avec Dieu dans notre chambre intérieure. Vous savez, on s'assied. La communion. Est-ce que votre table est entretenue? Est-ce qu'on entretient notre table? Notre communion avec le Seigneur? Et puis, il y a une chaise. Ça, c'est le symbole du disciple qui s'assied pour écouter ou étudier la parole. Un lit, une table, une chaise. C'est tout le secret de notre vie. La foi agissante qui plaît à Dieu. La foi agissante dans le repos, c'est la foi qui s'appuie sur ses principes. Un lit, une table, une chaise pour rencontrer le Sauveur et entretenir notre communion avec lui. Et puis il y a le chandelier. C'est le symbole du témoignage. Que votre lumière luise devant les hommes. Pourquoi? Parce que la lumière de Dieu brille en nous. J'ai observé ce matin le déroulement de la présidence, de toute la première partie de votre culte. Moi, je viens des assemblées de frères. C'est un peu différent chez nous. Mais j'ai observé les chants, le déroulement des chants. Pourquoi tel chant après tel autre chant, etc. Comment on arrive à la scène? Comment notre frère qui chante, comment il s'y prend. Je me suis dit, c'est extraordinaire, ça fait du bien, c'est utile. Mais le plus important, c'est que l'expression de notre adoration doit être le reflet de notre vie. Pas simplement d'un dimanche matin, ou de dimanche après dimanche, ou parce qu'on est tous ensemble, alors on se sent bien. La vie avec le Seigneur, c'est, comme vous dites, à tous les jours, ok, en permanence. Et l'expression de notre louange, c'est le fruit de notre semaine avec lui, notre intimité avec lui, de notre don de nous-mêmes avec lui, de notre discipline avec lui, de notre intimité avec lui. Et vous n'y échapperez pas, nous non plus, en tant que chrétiens de l'autre côté de l'océan, de l'Atlantique. On n'y échappe pas. C'est universel. C'est l'intimité de chaque enfant de Dieu avec son Sauveur qui crée la puissance de la joie, de la sainteté, de la pureté dans le culte et dans l'Église. Alors l'Église aide à cette marche solitaire dans le face-à-face avec Dieu. Mais n'inversons pas l'ordre des choses. C'est notre intimité avec le Sauveur qui va avoir un impact sur la vie de l'Église. Et pas l'inverse. Vous me comprenez? Il y a une chronologie dans l'expression de la vie spirituelle. Parce que je suis fidèle dans ma solitude, tout seul comme témoin dans mon travail, dans mon voisinage. Alors, quand je vais arriver le dimanche matin à l'église, il va se répandre cette présence du Saint-Esprit au travers de chacun d'entre nous. Et là, pouf, la louange, elle est là, la vraie louange. Et puis des fois même, on ne peut même pas chanter tellement on est attristé par les difficultés rencontrées. Mais Dieu lit dans nos cœurs, il voit. Et il dit, voilà, un enfant. Belle louange. Il reste fidèle dans l'adversité. Donc, ce couple avait décidé d'investir et de s'investir. Ce qui est extraordinaire, c'est que devant un tel amour, une telle expression de la foi, voilà que Élisée, prophète de Dieu, se pose une question. Il se dit, on va rendre service à cette femme. Alors il lui dit, est-ce que tu veux qu'on parle de toi au roi, au chef de l'armée? Et la femme lui répond d'une manière sibylline cette courte phrase. Je vis au milieu de mon peuple. C'est-à-dire, je ne demande rien. Je n'ai aucune exigence. Élisée, au travers de toi, ce que je fais pour toi, avant tout, je le fais pour l'Éternel. Je n'ai aucune exigence, je ne demande rien. C'est étonnant parce que Élisée n'avait pas perçu cet aspect-là de l'intimité de cette femme. Mais cette femme avait un drame dans sa vie. Elle n'avait pas d'enfant. Elle avait une souffrance. Que c'est beau de voir les chrétiens que nous sommes servir Dieu dans une foi engagée tout en souffrant silencieusement. Il y a de ces souffrances, vous le savez, qui n'échappent pas au regard de Dieu, mais que Dieu maintient dans nos vies pendant un certain temps. Et toute la difficulté parfois pour les chrétiens, c'est de servir le Seigneur dans le non-exaucement. Après tout, avoir un enfant quand on est marié, il n'y a rien de plus légitime. Et pourtant, cette femme n'avait pas d'enfant. Son mari était plus âgé qu'elle. Et c'est le serviteur qui, dans d'autres circonstances, va se montrer peu spirituel, qui lui discerne la chose. Et il dit à Élisée, mais cette femme n'a pas d'enfant et son mari est vieux. Et là, Élisée regarde cette femme et lui dit, dans un an, à la même époque, tu auras un fils. Et quelle est la réaction de cette femme, parce qu'elle souffre? Elle dit, mon Seigneur, ne me trompe pas. Elle avait fait une croix, façon de parler, hein. Elle avait fait une croix sur son problème, sur sa souffrance. Elle s'était dit, c'est fini. Pourtant, il y avait eu la femme d'Abraham, Sarah, qui avait été exaucée. Mais malgré cette connaissance des bénédictions de Dieu, elle se disait, pour moi, c'est fini. Et c'est pour ça qu'elle a une telle réaction. Au lieu de dire, oh mon Seigneur, merci pour cette promesse, elle dit, ne me trompe pas. Ça me fait trop souffrir, ne viens pas mettre ton doigt là-dessus, ne me trompe pas. Je ne sais pas dans quelles conditions vous vous servez, mais si vous souffrez, si nous souffrons, n'oublions jamais que l'exaucement est possible. Quelle que soit la souffrance, l'exaucement peut être possible. Je dis bien peut-être. Parce qu'il plaît à Dieu dans sa souveraineté d'agir comme il l'entend vis-à-vis de chacun de ses enfants en particulier. Dieu ne fait jamais la même chose avec tous ses enfants. Il y en a qui connaissent des souffrances et qui vont les emmener avec eux jusqu'à la mort. Il y en a d'autres qui connaissent des souffrances et ils vont être exaucés. Et ceux qui vont emporter leurs souffrances avec eux jusqu'à la mort, Dieu va compenser cette souffrance par d'autres exaucements. C'est quelque chose qui nous échappe. Mais ce que je note dans ce couple, ou chez ce couple, pardon, c'est ils servent avec qualité, alors que cette femme porte en elle une souffrance et un drame. Ça, c'est une des grandes leçons pour les chrétiens que nous sommes. Si nous souffrons, nous devons servir. Je me souviens d'un homme qui a été ancien dans notre église il y a bien des années. Il était au chômage, c'était un monsieur extrêmement diplômé, des très hautes écoles françaises, et malgré ça, il ne trouvait pas de travail, et il arrivait à peu près à la cinquantaine. C'est un âge critique hein, pour trouver du travail. Et du coup, on lui disait, mais en attendant que tu trouves du travail, est-ce que tu pourrais faire tel et tel service dans l'église? Il était d'une haute compétence, cet homme-là. Et alors, il en était tellement écrasé par cette épreuve. Vous savez, pour un homme qui est marié, avoir des enfants, c'est sa femme qui ramène de l'argent à la maison. C'était pas lui. C'est humiliant. À 50 ans, ne plus trouver de travail, c'est humiliant. Se sentir mis de côté par la société, c'est humiliant. Alors, il nous disait, je peux pas. Et pendant des mois, il est resté comme ça. à se morfondre chez lui. Et nous allions le voir pour prier avec lui, suivre l'évolution de ses demandes d'emploi, etc. Et puis un jour, il a dit, ok, je vais servir le Seigneur. J'ai pas de travail, je vais servir le Seigneur. Et il s'est mis à servir le Seigneur. Et nous, on était contents parce que du coup, on faisait plus rien. Il faisait tout. Ah, il était fort, celui-là. C'était chez nous ce qu'on appelle un ingénieur des mines. Il avait aussi fait centrale, c'était très hautes écoles. Il était tellement capable. Il a tout fait dans l'église, la comptabilité, toutes sortes d'organisations. Quelques mois après, Dieu lui a donné un emploi qu'il n'espérait plus. Tant dans le sens d'avoir un emploi, mais le niveau de responsabilité que la compagnie lui a proposé l'a laissé en admiration devant l'Éternel. Il s'est dit, je ne pensais pas que j'allais obtenir une telle situation pour terminer ma carrière. Il s'était engagé sans rien avoir et Dieu l'avait exaucé. Mais c'est tellement difficile de s'engager quand on souffre. Et c'est pour ça que là, l'Église, les frères et les sœurs ont besoin de comprendre la souffrance de ceux qui se trouvent dans l'épreuve. Pour les accompagner avec amour et attendre avec patience l'exaucement de Dieu. C'est comme si Dieu, au travers des frères ou des sœurs en difficulté, voulait nous apprendre à nous qui n'avons pas de soucis en particulier, pas de soucis écrasants, voulait nous apprendre la patience et la foi. Vous savez, je me suis aperçu qu'il y a des fois les chrétiens sont impatients que Dieu réponde. Mais en creusant un petit peu leur attitude, c'est pas tellement parce qu'ils sont très spirituels, c'est plutôt parce que parfois ils sont incrédules. Ils voudraient que Dieu exauce tout de suite parce qu'ils ne supportent pas l'épreuve. Comme si leur théologie évangélique, biblique, c'était Dieu exauce dès qu'on lui demande. Ça n'existe pas. Dieu exauce quand il veut bien exaucer. Parce que Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut, comme il veut, quand il veut, et il ne prend le conseil de personne. Et il y a parfois de ces impatiences qui n'expriment pas la spiritualité, mais plutôt l'incrédulité. Et c'est en cela aussi que nous devons nous examiner dans la foi. Sommes-nous impatients? Ou avons-nous appris à attendre de l'Éternel, l'exaucement, c'est-à-dire la patience, qui est un des aspects du fruit de l'esprit, l'amour, la patience. Ce qui est formidable, c'est que ce couple servait d'une manière désintéressée. Ils n'ont rien demandé. Elle n'a pas fait connaître son besoin à quelqu'un d'autre qu'à l'Éternel, cette femme. Ils n'ont rien demandé. Géasi, lui, c'est une leçon qu'il est en train d'apprendre, parce que plus tard dans sa vie, Géasi va récupérer des biens. Vous connaissez son histoire, celui-là. Hein. Il est allé courir derrière Naaman pour récupérer des biens. Il ne s'est pas souvenu du témoignage de ce couple qui, dans l'épreuve, n'avait rien demandé. Comme dit Jérémie, comme tu es habile dans tes voies pour faire ce que ton cœur désire. Voyez comment des fois on peut se tromper. Et Géasi, qui là est spirituel, va quelque temps après manifester un intérêt pour les choses financières, pour les biens. Ce qui est formidable, c'est que quand une foi est engagée, si elle est trouvée désintéressée, le Seigneur va la récompenser d'une certaine manière. Mais ça prend la foi désintéressée. Je me souviens d'un jeune chez nous, un jeune étudiant très capable, qui maintenant a été sollicité par une entreprise en Suisse, pour le système de banque en Suisse, pour un beau job, comme vous dites. Alors lui, je l'ai connu étudiant. Étudiant très compétent. Mais en tant qu'étudiant, il était à l'extérieur du monde du travail. Alors, je ne sais pas si vous avez des étudiants dans l'église. Je ne sais pas comment ils se comportent chez vous, mais il y a certains étudiants français Tant qu'ils n'ont pas goûté au monde du travail, ils sont presque incontrôlables. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent de, ils sont dans l'université. L'université leur apprend énormément de choses. Ils sont super capables et compétents. Mais alors, c'est ce qu'on appelle des électrons libres. Faut ce qu'ils veulent. Alors moi, vous savez, je dis ça aux frères anciens. Je ne sais pas s'il y en a parmi nous ce matin, aux pasteurs ici. Vous inquiétez pas. Patientez jusqu'à ce que Dieu les envoie dans le monde du travail. Puis une fois qu'ils sont dans le monde du travail, là ils sont confrontés, il faut gagner son pain. Puis là ça rigole pas. Le monde du travail, c'est pas l'église. Et ce que moi j'ai jamais pu réaliser chez cet étudiant, c'est le monde du travail qui l'a réalisé. Il est revenu dans l'église, il était obéissant, il était soumis, il écoutait. Parce que dans le travail, on lui disait « tu te tais puis tu fais ton boulot ». Sinon, tu n'auras pas d'argent à la fin du mois, enfin, parce que nous, on est payés mensuellement. Alors, c'est un conseil que je donne aux responsables spirituels. Vous inquiétez pas, choyez vos étudiants, laissez-leur un petit peu de liberté, là, et puis priez qu'ils aillent vite dans le monde du travail. Priez qu'ils réussissent leurs examens, puis qu'ils aillent dans le monde du travail. Puis quand ils reviennent, ils sont bons. on est tranquille. Alors, lui... Pendant ses études, il avait décidé de se consacrer au GBU, au groupe biblique universitaire, et il vous faisait un travail extraordinaire pour les GBU. Et il ramenait des non-chrétiens dans les réunions, puis il y avait des conversions, puis je le voyais aller, et quand il me parlait, il avait une satisfaction, ce qui était bien naturel, hein, il était satisfait. Puis, mais, comment tu fais pour tes études? T'inquiète pas, Jean, moi, ça va vite, je comprends tout, patati patata. T'es pas un Français, hein. T'es pas un Français, lui, hein. Il venait d'Amérique centrale. Mais on aurait dit un Français. Je comprends tout. Je comprends tout, je sais tout d'avance. Vous avez rien à m'apprendre, etc. Et le jour des concours, il a pas été reçu. Il a loupé son année. Puis là, Dieu l'a topé. Parce que Dieu voulait lui faire comprendre quelque chose. C'est pas donnant, donnant. C'est pas parce que tu t'investis pour les GBU, que je te donne du succès, que je vais automatiquement te donner tes concours. Ça marche pas comme ça. Vous l'auriez vu, il était à ramasser, comme on dit chez nous, la petite cuillère. Il était complètement brûlé, quoi. Il était écœuré. Je sais pas, ça vous dit quelque chose, écœuré? Parce que vous l'utilisez dans les deux sens, hein. C'est écœurant la vie avec Jésus-Christ. Alors, la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, oh là, qu'est-ce qu'il raconte? Bon, c'était, elle était déçue. Puis il m'a dit, mais pourquoi? Je lui ai dit, parce que on ne sert pas Dieu en pensant que ça y est, on a mis Dieu dans sa poche, puis il va faire ce qu'on veut. Ça marche pas, Dieu est insaisissable, c'est Dieu. Là, tu apprends une grande leçon. Alors ce qui était beau, c'est qu'il s'est relevé, vous savez, au bout de quelques semaines, on l'a vu se relever, il est reparti aux études, puis il a réussi, il a équilibré un petit peu sa vie, et puis maintenant, bah, il est dans le monde des affaires, puis ça marche fort pour lui, puis il est responsable dans une église, enfin, etc. La foi désintéressée. La question qu'il faut que nous nous posions, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un intérêt quelque part dans notre service ? En dehors de manifester la gloire de Dieu. Est-ce que j'ai un intérêt personnel? Parce que si on a un intérêt personnel, Dieu va venir nous chercher là. Puis des fois, il nous arrive des choses dans la vie, on ne comprend pas pourquoi. Mais c'est simplement parce que Dieu veut qu'on découvre les profondeurs de nos cœurs et de nos âmes, qui parfois nous amènent à des motivations qui ne sont pas celles que Dieu veut voir en nous. Alors ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il nous accompagne jusqu'au bout pour nous transformer à l'image de Christ. Hein. C'est ça son désir. Alors il nous laisse aller, puis il vient nous toucher, et hop, il nous amène dans cette sanctification de la foi. C'est l'histoire de Job. Quand Satan vient devant le Seigneur pour dire des choses, puis Dieu dit, Satan, t'as vu mon serviteur Job? Puis Satan, tout de suite, il saute sur l'occasion. Il dit, mais Dieu, tu crois que Job te sert d'une manière désintéressée? Il est riche, il a des enfants, et tout ce qu'il veut touche à ses biens, puis tu vas voir. Puis c'est tout l'enjeu de l'histoire de Job. Et Dieu permet que Satan touche au bien, et après les enfants, et après sa propre santé. Puis Job, il bouge pas d'un millimètre. On l'a chanté tout à l'heure. Hein. Vous vous souvenez des cantiques que vous avez chantés? J'espère. Hein. J'espère pour vous. Hein. Dieu a donné, Dieu peut reprendre. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, tiens, ils sont pas mal, ces cantiques-là. Ils sont pas mal. Dieu a donné, Dieu peut reprendre. C'est formidable, l'heure n'avance pas vite chez vous. Ça va, je suis toujours, vous êtes toujours avec moi, ça va? Et parce qu'elle a une foi désintéressée, alors Dieu qui sonde les cœurs et les reins lui donne un enfant. Quelque chose, ça. Le désir de son cœur, avoir un enfant. Quelque chose. Prolonger la vie, donner la vie. Hier, j'étais chez des amis québécois, ils sont grands-parents. Alors, il y a l'épouse qui a dit, « Oh, mon mari, il est gaga. » Ils ont deux petits-enfants maintenant. Puis, je connais ce couple depuis très longtemps. Puis, je les observais. Pendant la conversation, pendant le repas, je me suis dit, « C'est extraordinaire comment la présence d'un enfant peut changer les vies, même des personnes âgées. » Extraordinaire comment il y a un impact. Des choses que rien d'autre ne peut réaliser. L'amour, la présence d'un enfant. Qu'il soit adopté ou qu'il soit de naissance physique. C'est étonnant. C'est étonnant. C'est encore un des grands miracles de l'amour de Dieu, hein, de sa création. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser aux autres, hein, entre parenthèses. Il n'y a que l'amour qu'on va, l'amour de Dieu pour nous, son sang versé à la croix, puis l'amour qu'on aura eu les uns pour les autres, qu'on va emmener avec nous dans le ciel. Hein. Ça va être notre couronne, ça. Hein. Le reste, vous savez, ça va partir. Hein. Alors je voyais ces grands-parents, là. Il y a un bienfait sur leur santé. Je les observais, je me disais, ils ont changé, physiquement même. Il y a un rayonnement en eux. Bon, avec mon épouse, nous sommes grands-parents, alors on peut en parler, c'est quelque chose, hein. Peut-être l'air fatigué devant vous, mais c'est le décalage horaire. C'est pour ça qu'il est dit dans les Saintes Écritures, en Hébreux chapitre 6, verset 10, « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » C'est beau. Alors c'est extraordinaire parce que Dieu donne et puis Dieu va reprendre. On n'y comprend rien. Dieu donne un enfant à cette femme et puis il va permettre que cet enfant meure. Dieu a donné un enfant à Abraham, Isaac. Il va conduire Isaac à offrir cet enfant. Vous savez que les commentateurs juifs expliquent quelque chose sur le chapitre 22 du livre de la Genèse. Parce que par deux fois, il est dit que ils montèrent, c'est-à-dire Abraham et Isaac, ils montèrent tous les deux ensemble. Ça, c'est verset 5 et verset 8. Puis un petit peu plus loin, quand Dieu est apparu et qu'il a donné l'animal pour le sacrifice, il est dit qu'ils redescendirent ensemble. Et les commentateurs juifs disent souligne la différence entre « ils redescendirent ensemble » et « ils montèrent tous les deux ensemble ». Et là, je trouve que c'est assez intéressant ce qu'ils disent, parce qu'ils disent qu'il y avait une telle fusion entre Abraham et Isaac, que Abraham n'était pas prêt à laisser partir son fils, il fallait qu'il apprenne quelque chose. Vous savez, on a des relations fusionnelles parfois, tant avec des personnes qu'avec des choses, des objets. C'est fusionnel. On va pas pouvoir s'en passer. On pense qu'on ne peut pas s'en passer. Et ça prend la place que Dieu voudrait avoir pour lui. C'est étonnant. Il est spécial, notre Dieu. Il veut nous attacher totalement à lui avant de nous rendre l'objet de nos désirs. Ou, quand c'est une personne, le sujet de nos désirs. Et ça, c'est la même chose pour cette femme. Elle a un enfant. Je pense qu'elle y était trop attachée. Et après avoir donné, Dieu va lui reprendre pour lui rendre. Mais c'est elle qui va changer et son mari. C'est sa foi à elle qui va être purifiée, qui va être sanctifiée. C'est son image et la réalité de la connaissance de Dieu qui va augmenter. Son intimité avec son Créateur qui va s'amplifier. Et en quelque sorte, Dieu va devenir petit à petit son tout. Comme disait l'apôtre Paul, « Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Avant d'en arriver là, personnellement, je ne sais pas si j'en suis là. Et le simple fait de dire que je ne sais pas, ça veut dire que je n'y suis pas. Je ne sais pas où vous en êtes, je sais où je pense savoir où j'en suis dans ma relation avec Dieu. Je dis « je pense » parce que Dieu, il m'apprend des choses sur moi-même qui me surprennent parfois. Mais Dieu va faire en sorte de nous attacher à lui avant de nous rendre le sujet ou l'objet de nos désirs les plus légitimes. Et donc, ça fait toujours partie de la foi, du sujet de la foi qui est purifié, du sujet de la foi qui est sanctifié, et de la foi qui nous amène à vivre en étant conscient que rien ne nous appartient en dehors de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ. Vous comprenez l'ordre hiérarchique? Dieu va développer en nous un amour pour lui sans nous enlever l'amour et sans enlever à cette femme l'amour pour son fils. Mais il y a quelque chose qui sera changé en elle. Elle va comprendre que son enfant, tout en lui appartenant, n'est pas son bien personnel. Nous avons 4 enfants avec mon épouse. Nous avons 3 belles filles, un gendre maintenant. Ça fait 8 enfants. Puis des petits-fils. Et nous sommes comme vous. Rien ne nous appartient. On les aime comme c'est pas permis, mais en même temps on sait que ils ne nous appartiennent pas en totalité. Il n'y a pas de relation fusionnelle. Et je crois que Dieu fait cela d'abord pour nous attacher à lui, puis ensuite pour équilibrer nos relations les uns avec les autres. Que de souffrances dans les relations quand elles sont fusionnelles. Que de difficultés à laisser à l'autre la place qui lui revient en tant que créature. Vous voyez tout le travail que Dieu exerce et accomplit, non seulement pour nous attacher à lui, mais pour résoudre des difficultés dans nos vies, au quotidien, pendant notre pèlerinage terrestre. Alors, l'épreuve de la foi. Il y a, je dois le dire, des situations qui sont incompréhensibles pour moi. Mais pourtant, les Saintes Écritures nous disent que dans l'évangile de Jean, c'est Jésus qui dit « Vous aurez des tribulations, c'est-à-dire des problèmes dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et c'est l'apôtre Jean qui va dire dans son épître « La victoire, notre victoire, c'est notre foi. » C'est une promesse très importante. Parce que en tant que chrétien, notre vocation, elle est à la joie, elle est au salut, mais elle est aussi à la souffrance. C'est Jésus qui a dit que celui qui veut être mon disciple se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. La croix, c'est quand même la souffrance. C'est le don de soi. C'est l'abandon de sa propre vie entre les mains de Dieu. C'est donc l'absence de toute revendication personnelle, de toute exigence personnelle, c'est l'offrande. Et Dieu veut amener chacun de ses enfants à ce niveau-là. Nous ne rentrerons pas, vous et moi, dans le ciel sans avoir été préparés et sans avoir été exercés à laisser les choses pour avoir Dieu en premier dans nos vies. Et il va le faire. Dieu ne nous reproche rien, hormis les désobéissances conscientes. Dieu ne nous reproche pas nos limitations, nos difficultés à comprendre. Parce que son travail, justement, c'est de nous élever dans un niveau de spiritualité, de relation avec lui. C'est son travail. Et il va l'accomplir. Mais nous passerons tous, et peut-être certains d'entre nous, nous y sommes, dans la souffrance. C'est l'apôtre Pierre qui dit en 1 Pierre chapitre 2, verset 21, « Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple de souffrance, hein, de don de soi, afin que vous suiviez ses traces. » Et c'est la souffrance qui nous fait grandir dans l'épreuve, qui nous donne d'apprendre à connaître le Seigneur de façon plus intime. S'il n'y avait que de la facilité dans nos vies, on ne grandirait pas. C'est pour ça que Dieu dose souffrance, exaucement, joie, et hop, encore un coup de souffrance. Pourquoi ? Parce que lui, on peut lui faire confiance, mais ce qu'il vise, c'est la transformation de notre personne. Et c'est pour ça que l'apôtre Jacques, pour finir, dit en 1 Jacques chapitre 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, l'épreuve de la foi. » C'est donc l'école de l'obéissance. L'épreuve de la foi produit la patience, la douceur et l'obéissance. Voilà ce qu'on apprend dans l'épreuve. Vous savez, l'épreuve, ça rend doux, parce que ça rend dépendant. Si Dieu vous a retiré beaucoup de choses, si vous ne savez plus, vous n'avez plus rien sur quoi vous appuyer en dehors de lui, c'est parce que Dieu veut nous apprendre la douceur, dépendre de lui, attendre son temps et se laisser conduire comme un enfant. Alors que Dieu nous garde, nous donne une foi agissante et concrète, même au travers des difficultés. Et que Dieu bénisse chacun d'entre vous et qu'il vous garde. Amen.